Nous recevons Monseigneur Norbert Turini. Monseigneur Norbert Turini, bonjour.
Bonjour à vous Cédric, bonjour à nos chères auditrices et auditeurs. Je suis heureux de retrouver sur les ondes de RCF.
Ravi de vous retrouver
Maglone,
dans ce studio. Merci. Ravi de vous retrouver dans ce studio pour parler de votre lettre pastorale pour une église de Pentecôte à la suite du Christ. C'est un peu court, une lettre pastorale. Vous venez d'arriver il y a quasiment un an. Pensez-vous que c'est court, de cette lettre pastorale?
Alors, il est vrai que j'aurais pu attendre un petit peu plus. Bon. Mais déjà, donc, la prise de connaissance du diocèse, les différentes visites que j'ai pu faire avant Noël dernier à la rencontre des prêtres et des diacres, et puis également les cinq premières visites pastorales, voilà, donc, m'ont amené à avoir un peu un certain regard sur le diocèse. Et également donc à ressentir de l'intérieur des questions qui se posent et des questions qui me sont posées. Hein. Par exemple, et ça revient de manière récurrente, voilà donc Monseigneur, vous arrivez dans le diocèse, bon, vous commencez déjà bon à prendre vos marques, vous avez effectivement découvert nos réalités humaines, ecclésiales, pastorales, spirituelles. Comment voyez-vous l'Église? Dans 5 ou dans 10 ans, voilà, bon. Donc, la question est à prendre en compte. Bien sûr, je ne suis pas magicien, je ne suis pas devin, bon, j'essaye d'être un peu prophète, puisqu'on est tous prêtres, prophètes et rois, voilà, bon. Donc, de porter un petit peu, enfin, de porter une réponse, ou d'apporter une réponse un peu prophétique à cette question-là, bon. Même si je n'ai pas la solution et que je peux pas dire avec certitude à quoi ressemblera notre diocèse dans 5 ou 10 ans.
Pour le moment, le constat qu'on peut dire, c'est qu'il y a de moins en moins de prêtres et les laïcs sont beaucoup engagés. C'est le seul constat qu'on peut faire aujourd'hui.
On peut dire qu'il y a effectivement donc une diminution du nombre de prêtres. D'ailleurs, dans la première partie, j'en viens à ma lettre pastorale, dans la première partie, j'ai dit, partons d'un constat. Partons du constat que tous nous faisons. Effectivement, le nombre de prêtres qui diminue, le fait que effectivement des laïcs s'engagent, le fait qu'il y a une érosion de la catéchèse, le fait aussi que nos assemblées dominicales effectivement ont tendance un petit peu à s'éclaircir, voilà. Donc ça c'est notre constat. Mais en même temps, et c'est la réponse déjà à la question de l'avenir. En même temps, on voit aussi du bourgeonnement. Mm-hmm. Voilà. Bon, on peut faire un constat a priori qui semble négatif. Mais en même temps aussi, on voit du bourgeonnement dans notre église diocésaine. On voit aujourd'hui, par exemple, un nombre croissant d'adolescents et d'adultes qui demandent le baptême. Voilà. Et souvent, qui n'ont pas eu de passé religieux et qui ont fait cette rencontre du Christ à travers tel ou tel événement, à travers telle ou telle situation, malheureuse, douloureuse ou joyeuse, et qui, d'un seul coup, sentent que la présence du Christ, la rencontre avec le Christ, vient combler en eux une sorte de vide existentiel. Et donc, ils cheminent spirituellement vers le baptême, vers la confirmation, vers l'Eucharistie, ce qu'on appelle les recommençants à croire, des gens qui ont abandonné toute pratique religieuse pendant des années, mais qui, d'un seul coup, à travers un événement, là aussi, donc, parfois surprenant, imprévu, voilà, retrouve cette soif, cette joie de l'Évangile, cette joie de croire, de vivre et d'aimer. Voilà. Donc, vous voyez, on sent que c'est la première partie de ma lettre où je dis, effectivement, il y a un constat qui apparemment est négatif, mais en même temps aussi, il y a de nouvelles pousses dans le jardin d'église, quoi.
Oui, l'église réfléchit aussi au monde de demain. On a vu Kérigma à Lourdes et puis il y a aussi
l'église réfléchit au monde de demain. Bon, elle s'empare aussi de grands enjeux, comme des enjeux interreligieux, comme des enjeux autour du climat, etc. Bon, voilà. Donc, elle prend sa part aussi dans la vie de la société, voilà. Bon, et comme je le dis quelque part, c'est pas parce que la civilisation chrétienne donne l'impression qu'elle s'éteint, que pour autant, le christianisme est mort. Le christianisme n'est pas mort. Il continue à vivre. Hein. Rappelons-nous que la catholicité de l'Église, elle commence au jour de la Pentecôte avec une poignée, de croyants. Hein. Voilà. Donc, la catholicité, elle n'est pas liée à la surface sociale de l'Église, mais elle est liée aussi à ceux qui croient, voilà, et qui, effectivement, font avancer donc l'esprit de Pentecôte. Donc voilà, dans la première partie, il y a ces deux aspects qui me paraissent importants, et c'est à partir de là, donc de ce que je vois, Mais concrètement, hein, j'invente pas les baptêmes d'adultes, j'invente pas les confirmations, j'invente pas les recommençants à croire. Ils existent. Bon, et c'est à partir de là que j'essaie de répondre à la question qui m'est posée. Et comment vous voyez donc l'Église dans les années à venir, etc. Bon, je veux dire, il faut partir du réel. Voilà. Ne rêvons pas une Église qui n'existe pas. Voilà. Mais partons du réel. C'est dans le réel que l'Esprit Saint nous fait signe et nous montre un petit peu, voilà, le chemin. Sur lequel plutôt s'oriente notre Église, voilà. Et ça, je trouve que c'est un chemin d'espérance.
Alors, parmi justement chemins justement proposés, vous avez comme résonance le mot fraternité. Fraternité, c'est essentiel dans l'Église, alors, mais c'est essentiel pour un pays en plus comme le nôtre.
Alors, tout à fait. Alors, je pense qu'il ne faut pas l'isoler d'un autre mot qui est important, qui est celui d'hospitalité. En fait, je pense qu'à partir du réel tel que nous vivons notre vie chrétienne, notre vie ecclésiale, dans les différents secteurs missionnaires, dans les différentes paroisses, dans les services, dans les mouvements. À partir de là, je crois qu'il faut qu'on avance, qu'on opère une grande conversion intérieure pour que nos communautés puissent s'enraciner dans un esprit de fraternité et d'hospitalité. De fraternité parce que c'est le Christ qui nous dit « Vous êtes tous frères ». Et que, quand on regarde aussi la réalité, on se rend compte parfois que dans certaines communautés, les fidèles ils sont juxtaposés les uns à côté des autres, mais qu'il n'y a pas ce pont de la fraternité entre eux. Et que quand on regarde dans d'autres communautés chrétiennes, en dehors de la communauté catholique, on se rend compte que l'insistance est faite sur la fraternité. Bon, parce que une communauté fraternelle est une communauté témoignante. Bon, et une communauté qui a du crédit, voilà. Si les gens nous sentent divisés ou opposés entre nous ou aux prises avec des luttes intestinales, etc., on donne pas un témoignage crédible de l'Évangile. Voilà. Donc la fraternité est un défi, bon, qui s'étend de nos communautés chrétiennes, mais comme vous l'avez dit, qui est un enjeu aussi universel, un enjeu d'humanité. Hein. On voit bien aussi que la fraternité, aujourd'hui, elle est indispensable si on veut sauver la paix. Il n'y aura pas de paix sans fraternité. Voilà. Donc, je vais dire, si je le ramène à la vie de nos paroisses, c'est pareil. Pour que la paix existe dans nos paroisses, il faut vivre la fraternité. Et c'est une conversion intérieure et une conversion spirituelle aussi. C'est un don qu'il nous faut demander. Donc, c'est la première. Quand j'aborde cette question-là, je dis qu'il ne faut pas attendre 10 ans, mais dès maintenant, pour préparer demain, il faut vraiment nous enraciner dans cette fraternité. Et puis ensuite, je dis l'hospitalité. Voilà.
Donc ça, c'est par rapport à la question des migrants, par exemple, alors, l'hospitalité, quand vous dites ce mot-là?
Non seulement par rapport aux migrants, mais à un moment donné, j'emploie l'expression fraternité hospitalière. Voilà. C'est-à-dire que si on est frère, on n'est pas refermé sur nous-mêmes, c'est pas le repli identitaire, mais si on est frère, au nom du Christ, au nom de l'Évangile, au nom de l'Esprit de Pentecôte, eh bien, on est amené, comme au jour de la Pentecôte, à s'adresser à ceux qui sont loin. Ce que le pape François appelle les périphéries existentielles. Voilà. Et donc, l'hospitalité consiste aussi à l'accueil de tous, à l'accueil des migrants, à l'accueil de ceux qui ne croient pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne se retrouvent pas forcément, mais dont certains éprouvent, j'allais dire, une affection toute particulière au message de Jésus-Christ. Voilà. Et ça, je pense qu'on a un travail donc d'hospitalité à accomplir dès maintenant. Voilà, que nos communautés chrétiennes, effectivement, se ferment pas uniquement dans les frontières donc ou les limites de la vie paroissiale ou de la vie ecclésiale. Mais qu'effectivement, elle pousse toujours plus loin ce que Jésus a fait. Elle pousse toujours plus loin la rencontre avec l'autre pour être une église hospitalière. Une église fraternelle et une église hospitalière. Ce sont ces deux réalités, à mon avis, qui nous permettront et qui nous permettent déjà de préparer l'avenir et de ne pas avoir peur de l'avenir. Si nous sommes une église de frères et une église accueillante et hospitalière, nous vivons vraiment la joie de l'Évangile. C'est ça, l'Évangile. Et donc, si on le vit, si déjà on s'y prépare spirituellement et, j'allais dire, ensemble, eh bien, automatiquement, l'avenir ne nous fera pas peur. Et voilà, il nous permettra d'avancer aussi des pistes, voilà, possibles, hein, voilà.
Donc vous voulez une église fraternelle, hospitalière, humble, aimante et davantage au service de tous. C'est la mission que vous allez confier notamment au Père Patrick Bonafé.
Alors, c'est la mission que je confie au Père Patrick Bonafé pour les secteurs paroissiaux, mais aussi au Père Gérard Blayac pour les services et mouvements. Parce qu'il faut que tous ensemble, nous rentrions, si possible, hein, dans cette dynamique d'espérance, dans cet élan missionnaire. Il faut que nous y entrions tous ensemble, et pas que quelques-uns. Et là, j'insiste beaucoup, parce que c'est au fond le sens de toute démarche synodale. La synodalité, elle se vit comme ça. Voilà. Donc, que personne ne reste sur le carreau. Voilà. Mais qu'on essaie d'y avancer ensemble, et que les deux vicaires généraux, avec moi, soient aussi à la manœuvre, voilà, pour présenter cette lettre, voilà, qui, encore une fois, n'est pas une réponse définitive. Je ne réponds pas à toutes les questions. C'est pas le but d'une lettre, quoi. Mais j'essaye d'ouvrir, de proposer un chemin de conversion d'abord. Parce que la fraternité, il faut se convertir. L'hospitalité, il faut aussi se convertir. Et se convertir, c'est vraiment un appel du Seigneur, quoi. Hein, voilà. Donc du coup, voilà, je me dis, ben, si tout le monde accepte de se lancer dans cette réflexion, dans ce discernement commun, voilà, on avance donc sur un chemin de conversion qui est aussi un chemin de construction. Les communautés telles qu'elles seront dans 5, 10 ans ou 15 ans, ne se feront pas comme ça automatiquement. Voilà. Mais l'Esprit Saint, il travaille dans le temps. L'Esprit Saint, il nous travaille aussi à l'intérieur du temps qui est le nôtre, qui est ce temps de la conversion et ce temps aussi de la construction. Il ne faut pas séparer les deux. On ne peut construire et avancer dans le sens de communautés qui seront peut-être tout à fait différentes des nôtres aujourd'hui que dans la mesure où on passe par ce chemin et de conversion et de construction.
Pour cela, il nous faudra trois mots essentiels, l'espérance, le courage et l'audace. Vous avez pris l'exemple dans votre conclusion de Marie qui va rendre visite à Elisabeth. Moi, j'aurais plutôt tendance, par la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, dans ce monde, nous sommes dans une barque. Et la tempête fait rage en ce moment, si on regarde le contexte mondial aujourd'hui, c'est oui. Pas vrai. Et Jésus dit, bah, ayez confiance.
Oui, ayez confiance.
Ça peut nous rappeler ce passage.
Oui, ayez confiance, n'ayez pas peur. Effectivement, continuez donc à garder ce courage évangélique en vous, continuez à faire confiance à l'Esprit, regardez aussi vers l'étoile hein, qui guide donc la barque de l'Église. Bien sûr qu'elle est agitée par des turbulences, bien sûr qu'elle est secouée, elle est bousculée, mais il n'y a pas que l'Église. L'Église est secouée comme le monde est secoué. Vous voyez, bon, faut pas non plus se regarder le nombril hein, et puis à se plaindre, en dire oui, on est malheureux, etc. Qu'est-ce qui nous arrive dans l'Église ? Non, l'Église est solidaire du monde dans lequel elle vit. Le monde est secoué, la barque de l'Église est secouée également, quoi. Voilà, et on essaye ensemble les uns et les autres donc de poursuivre la traversée. Mais c'est vrai que nous, on a effectivement cette espérance chevillée au cœur, au corps et à la foi, qui est que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'est le kérigme, hein, vous parliez de kérigme tout à l'heure, oui. C'est le kérigme, c'est le cœur de la foi, et qui fait que cette résurrection du Christ, elle nous booste, elle nous donne de la force, de l'audace, de l'espérance, du courage. Le courage, l'audace, on ne le puise pas qu'en nous-mêmes, sinon on serait vite à bout de courage et à bout d'audace. Mais on le puise aussi dans cette force de la foi et dans cette force du ressuscité qui, effectivement, lui, ne désespère pas de la vie de l'Église et qui sait qu'aujourd'hui, ben, les fidèles que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, les catholiques que nous sommes, les croyants que nous sommes, avec en coopérant à l'œuvre de l'Esprit, nous sommes capables d'avancer sans nous inquiéter et que les communautés de demain formeront toujours l'Église du Christ, la sienne.
La lettre pastorale, c'est vraiment à diffuser à tout le monde.
Ah oui, et oui, chacun oui, de oui, la lire. Ah oui, de 7 à 97 ans. Hein, oui, oui, non, la lettre pastorale, elle est même à diffuser à tout le monde, à être réfléchie, même à être critiquée. Hein, c'est quand même un peu un bateau cible, hein, être critiquée, parce que je dis pas que j'ai la vérité. La vision que j'ai, enfin que j'essaie de présenter dans cette lettre pastorale, elle n'est pas définitive. Elle se situe à une étape, à l'étape actuelle de mon ministère d'évêque dans ce diocèse et à l'étape actuelle de notre vie diocésaine. Voilà. Après, à chacun de s'en emparer et d'en faire ce qu'il en veut, des confettis s'il veut, du papier pour envelopper je sais pas quoi, mais en tout cas, elle est faite, elle est écrite, elle est rédigée pour être lue et c'est aussi pour moi un acte de foi en Dieu et en son Église. Voilà, écrire une lettre pastorale, c'est s'adresser à sa famille diocésaine pour dire voilà, je crois en Dieu et je crois en l'Église. Voilà, et c'est une manière finalement aussi, je crois, intéressante de dire ben écoutez, voilà, cette foi, elle continue à grandir entre nous. Voilà, et cette foi en Dieu, en l'Église du ressuscité, elle nous tire en avant.
Merci beaucoup, Monseigneur Turini, de nous avoir parlé de votre lettre pastorale.